Chapitre 27. Le Goubet. Après avoir dépassé Szegedin, Schulze et Müller constatèrent avec stupéfaction que l'attitude de Bouvreuil s'était totalement modifiée. Plus de cris, plus de résistance. Le prisonnier, si nerveux la veille encore, était devenu subitement calme. Mais il souriait d'un air ironique, agaçant au possible, quand on l'interpellait sous le nom de Rosenstein. Szabadka, la Maria Theresa Spell des Autrichiens allemands, Baja, déjà perché au port du Danube, Agram, Steinmeuk défilèrent sous les yeux des voyageurs sans que l'usurier s'expliquât. Mais à quelques kilomètres de Trieste, il dit à ses gardiens « Messieurs, je vous déclare que je me réclame du consulat français et que je demande à être conduit devant lui. Vous irez d'abord à la permanence de police. Je souhaite, mais de là au consulat, c'est mon droit. » Sur les indications de Bouvreuil, le chancelier télégraphia à Sens, où Pénélope attendait le retour d'Armand, et la réponse établit péremptoirement l'identité du propriétaire, qui en fut quitte pour quelques heures de chambre de sûreté. De là, une explication avec les policiers, au cours de laquelle ceux-ci mirent sous les yeux de leur ex-prisonnier la lettre fabriquée à Bakou par le Parisien. « Mais c'est l'écriture de la Varette !» s'écria Bouvreuil, la reconnaissant du premier coup. À eux trois, ils eurent bien vite reconstitué toute l'aventure. Pour Schulz et Müller, furieux de rentrer bredouille, il demeura acquis que le journaliste avait volontairement trompé et dépisté les agents, qu'il s'était livré, au détriment de la police austro-hongroise, à des manœuvres frauduleuses et ténébreuses dont avait profité le vrai coupable. De là à l'arrêter, il n'y avait qu'un pas. Bouvreuil affirma que le mystificateur viendrait à Trieste. Il rappela la façon dont il avait réclamé son ticket. Il persuada ses auditeurs. Le jour même, le chef de la police, insuffisamment renseigné par les détectives que la rage aveuglait, mettait à leur disposition une brigade de sûreté et des souricières étaient établies à toutes les gares, Saint-André, l'Arsenal, Trieste-Port, pour pincer le délinquant au sortir du train. Cependant, celui-ci mêlé à l'Axarda marchait à toute vapeur sur la cité adriatique en raclant du violon. Infailliblement, il allait être pris. Il lui faudrait des semaines pour démontrer à la justice, boiteuse en tout pays, l'inanité des accusations portées contre lui et l'héritage lui échapperait. Voilà ce qui réjouissait Bouvreuil, qui pour l'occasion s'était fait policier volontaire. Mais le ciel n'était pas dans son jeu. Le 25 février, à 10h du matin, le train qui portait la Varède et ses amis dérailla entre la gare de Miramar et Trieste. Bouvreuil avait tout prévu, tout, excepté un déraillement. Les voyageurs, contraints de devenir piétons, entrèrent en ville par la splendide Via Giacomo Monte, que la police ne gardait pas. Laissant à droite le château et la cathédrale de San Giusto, ils gagnèrent la Piazza Grande, puis le quai du port dit del Mandrocchio, et se dirigèrent vers le grand canal qui part de la mer et partage la ville neuve en deux. Sir Merliton et sa fille avisèrent l'hôtel Galciotti sur la Riva, ou quai du même nom, et s'y arrêtèrent tandis qu'Armand, confiant en son étoile, vaguait par les quais, cherchant un moyen de poursuivre son curieux tour du monde. Le hasard heureux était absent ce jour-là. Le voyageur se promena vainement du Molo del Sale au Molo San Carlo, de celui-ci au Molo Benita. Il eut beau parcourir les Via Carradori, Antonio de Vienna, le Corso, le Ponte Rocco, Point Rouge, jeté sur le canal, l'inspiration ne venait pas. Avec cela, le déraillement du train avait empêché le dégelé de la Xarda, et l'estomac du jeune homme formulait des réclamations qui nuisaient au travail du cerveau. Ennuyé, mais non découragé, Armand avait prolongé sa promenade jusqu'à la Riva Gramala, dont il apercevait l'arsenal d'artillerie et la cantine du Molo Santa Teresa, quand un groupe, criant et gesticulant, appela son attention. Un matelot haranguait avec force geste une dizaine de porteurs du port, désignant tantôt des caisses placées sur le quai et tantôt la mer. Ses auditeurs l'interrompaient pour pousser d'une voix gutturale toutes les onomatopées de la langue italienne, toujours parlées à Trieste, au grand désespoir de l'Autriche. Finalement, le marin leva un poing menaçant et la bande à cette démonstration s'enfuit dans toutes les directions. La marraine s'était rapprochée. « Tonnerre de sort !» hurla le matelot furieux. « Quel feignant que ces Italiens !»« Qu'y a-t-il donc, mon brave ?» demanda le journaliste. La figure bronzée du loup de mer s'éclaira. Sa colère tomba comme par enchantement. « Un pays » fit-il. « Oui, attiré par le bruit de votre querelle. Oh, ne m'en parlez pas, mais ces Chinois-là ne comprennent pas un mot de français. Je n'ai jamais pu leur faire entendre qu'il faut transporter les caisses que vous voyez là dans le François-Joseph. » « Le François-Joseph ? » ?»« Oui, la coque qui est là, à quai. » La marraine regarda. Le long du quai, dépassant le niveau de l'eau de 30 à 40 centimètres seulement, émergeait une étroite plateforme métallique. Une légère balustrade l'entourait. Au centre, un petit dôme circulaire, dont la partie supérieure était formée par une grosse lentille de verre. Comme apparence, cela rappelait de loin le pont d'un torpilleur. « Mais, murmura le journaliste, je connais ça. C'est le Goubet, le torpilleur sous-marin français dont j'ai suivi les expériences à Cherbourg, avec mon confrère Émile Gautier. » Le matelot cligna des yeux et parut embarrassé. « Cela y ressemble, monsieur, oui, bien certainement, ça doit y ressembler, mais ce que vous voyez est le sous-marin électrique du seigneur José Miraflor. »« Alors, José Miraflor, c'est curieux, j'ai déjà entendu ce nom-là. »« Possible si vous avez un peu voyagé. »« Ah, mais pas mal, en effet. Est-ce que je ne pourrais pas le voir, ce noble étranger ?»« Oh !» Son portrait est exposé dans le salon du bateau. Armand eut un mouvement très vif de curiosité. « Et ce bateau, qu'est-ce qu'il en fait ?»« Oh, il cherche à le vendre à l'une des puissantes de la Triple Alliance, et en attendant, il permet aux curieux de le visiter, moyennant un florin d'entrée. » Le Parisien réfléchissait. « Dites donc, reprit-il au bout d'un moment, ne me disiez-vous pas que vous aviez des caisses à embarquer ?»« Oui, des provisions et de la poudre, car on partira pour Fiume et incessamment. Paraît que pour vendre, faut aller dans ce mort militaire. »« Eh bien, je vais vous aider. »« Vous, monsieur ? » ?»« Tiens, entre compatriotes, oh, je ne sais pas si je dois, mais vous devez. » Et en échange, vous me ferez casser une croûte en visitant le bateau à l'œil. La locution faubourienne employée à dessein par le jeune homme décida son interlocuteur. Marché conclu. En un tour de main, les colis passèrent du quai sur le pont. Le dôme pivota sur une charnière ainsi qu'un couvercle, démasquant une ouverture au bord de laquelle s'appuyaient les montants d'une échelle de fer. « L'escalier du François-Joseph, » dit le matelot. Bah, « Vous présentez tout sauf vous-même, » répliqua la marraine. « Oh, moi, Marianne Langlois de Saint-Malo, et moi, Armand Lavarenne de Paris. Une à une, à l'aide de cordes, les caisses furent descendues à l'intérieur. La dernière embarquée, les deux hommes s'engagèrent sur l'échelle. Le premier objet qui s'offrit à la vue d'Armand fut dans le salon le portrait de son ancienne connaissance de Costa Rica. Il s'étalait, superbe, accroché à un panneau, portant cette flatteuse mais trompeuse indication en allemand et en italien Don José Miraflor, inventeur du torpilleur sous-marin mu par l'électricité. C'est bien lui, dit mentalement Lavarenne. Par conséquent, il ne peut y avoir de doute. Je flaire quelques coups de coquin. Le matelot offrit à son nouvel ami du pain, du fromage de chèvre, de la mortadelle et un fioschetto d'excellent vin de Chianti tout en lui montrant le navire. Voyez-vous, monsieur, c'est une espèce de poisson d'acier divisé en trois compartiments. À l'avant, le fanal électrique qui éclaire la route et le poste de l'homme chargé de signaler les obstacles. À l'arrière, la chambre des accumulateurs et de l'appareil moteur. Et au milieu, un salon élégant avec une fenêtre ovale de chaque côté. Une lentille de verre ferme hermétiquement ses ouvertures sur lesquelles une plaque de la carapace métallique du bateau glisse à volonté, formant volet. Pour passer d'un compartiment dans l'autre, pas de porte, mais une niche double pivotant sur son axe en un millième de seconde et dont les points de contact avec la cloison sont garnis d'obturateurs de caoutchouc. Deux hommes d'équipage, mon fils aîné Yann, que je vous présente, à la proue, moi à la poupe, et Don José Miraflor dans le salon, au tableau de direction. Il montrait en prononçant ces derniers mots un clavier de manette et de levier dont chacun portait une inscription. Lavarenne lut curieusement « en avant, machine arrière, montée, immergée, arrêt absolu, pompe, etc. etc. » Une dernière attira particulièrement son attention. « Poids de sûreté, dit-il. » « Oui, s'empressa de répondre le matelot, sous la quille est un bloc de fonte et de plomb de 3 000 kilogrammes. Supposez une avarie, au fond de l'eau, crac à un tour de manette, le poids se déclenche, et le torpilleur, délesté, remonte à la surface comme un bouchon. « Et c'est Don José qui a inventé tout cela ?» Le matelot hésita. « Dame, fit-il de l'air de l'homme qui craint de se compromettre. « Ce n'est pas vrai, déclara le journaliste. Je le connais, ce Don José, il est capable d'imaginer un guet-apens, mais non un appareil de ce genre. Et ceci, sauf les accumulateurs que mon camarade Goubet, les jugeant trop dangereux, avait remplacés par des piles, est exactement le bateau sous-marin que ce mécanicien de génie a proposé au gouvernement français. Qu'il a refusé d'ailleurs. Tiens, vous êtes au courant, maître Langlois ? Eh bien oui, dit le marin, se décidant brusquement. Après tout, je ne suis pas cause. Si l'inventeur, ruiné par ses essais, s'est laissé river à bloc par le Rastaquouère, pour 10 000 et une part en cas d'achat, il a lâché le torpilleur. Et Goubet a consenti à la vente à l'étranger? Pas ça, non pas ça, il a même stipulé le contraire, mais, comme le répète M. Miraflor, la soute au picaillon est vide, il ne fera pas de procès. Le visage du Parisien était devenu sévère. Il se rapprocha du matelot et le regardant bien en face. « Savez-vous que votre José est un voleur ?»« Je ne dis pas le contraire, » balbutia le pauvre diable, troublé par le ton d'Armand. « Et une chose m'étonne, c'est que ce drôle ait trouvé pour le servir deux matelots français, deux malouins. La peau basanée de Marie-Ange Langlois prit des tons de brique. Ses yeux eurent une lueur fauve. Puis se calmant soudain, il étendit les bras avec un geste de résignation et d'abandon. « Que voulez-vous ? Faut vivre !» Et d'une voix sourde, voilée de larmes presque, « J'étais patron d'une barque de pêche. Elle m'avait coûté 20 000 francs. Tout ce que les vieux m'avaient laissé, quoi. Le Margaret filait comme une mouette, elle se jouait de la vague. Un jour, la lame l'a enveloppée et elle a coulé à pic. Quoi faire ? La ménagère, 4 gars, une petiote, tout ça veut manger. Avec ça que le cadet, qui a une cervelle organisée, paraît-il, est à l'école navale. Puisqu'il peut devenir officier et pas traîner l'existence aussi lourde que nous, faut qu'il y reste. Mais faut solder le trimestre. Alors, le Miraflore est arrivé, il offrait une haute paye. J'ai accepté avec Yann pour que les petits ne se gargarisent pas avec le vent du Norrois et que le cadet porte l'uniforme. Voilà pourquoi je suis ici. Deux pleurs coulaient lentement sur les joues bronzées du malouin. Enfin, ému par ce récit, Lavarette vint au marin et lui secouant la main. « Il y a une chose à laquelle tu n'as pas songé, mon camarade. » Le tutoiement, cette forme familière et affectueuse du peuple, fit frissonner Langlois. « C'est que, » poursuivit Armand, « ce bateau livré à la Triplice lancera au jour de guerre des torpilles aux nôtres et que peut-être tu prépares la mort de ton fils au moment où tu marches sur ta dignité pour lui assurer un grade dans la marine militaire. Non, 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 gronda l'homme. C'est que c'est vrai pourtant. Et après un silence perplexe, résolument, il demanda dites-moi donc ce que je dois faire. Appelle ton fieu. Yann parut aussitôt. Mis au courant, il déclara sans hésiter que le monsieur avait raison. « Alors, mes gars, nous sommes d'accord, » écria la marraine. « C'est que j'ai aussi du sang breton dans les veines. Je ne veux pas que les pays fassent quelque chose d'inavouable. Je vais chercher 2 amis installés près d'ici. Je les embarque et nous ramenons le bateau en France. Topé, là ? Nous ne volons pas d'en recet. Pas de crainte. Depuis un mois que nous allons de port en port, les visiteurs lui ont rapporté plus de 50 000 francs. En ce cas, à vos postes et au signal du tableau, en route. Les marins regagnèrent leurs compartiments respectifs, tandis que le journaliste grimpait l'échelle du François-Joseph en murmurant « Je nargue la Triplice et je reviens à Marseille sans bourse déliée. » Mais décidément, ce José est ma providence. En atteignant le pont, il poussa un cri de joie. Sur la rive Glamalla, il venait d'apercevoir Sir Marliton se promenant avec sa fille. Il agita son mouchoir et fit signe aux Anglais de le rejoindre. Et sa mimique attira l'attention de 2 hommes qui débouchaient de la Via Salita. C'était Bouvreuil et Don José. Lorsque la nouvelle du déraillement du train de Szegedin-Trieste lui était parvenue, l'usurier, éclairé par un pressentiment, n'avait pas hésité à déclarer que son ennemi avait dû prendre ce train-là. Il convainquit Schulz et Müller et, escorté par eux, se mit à battre la ville. Dans ses allées et venues, il se trouva nez à nez avec Miraflore. L'heure n'était pas aux explications. Puis, entre honnêtes gens de cette trempe, on s'entend toujours. José déclara vivement que sa situation était prospère et qu'il se proposait de rembourser au propriétaire la somme dont il l'avait allégé en Amérique. Bouvreuil pardonna. L'autre, connaissant la ville et pouvant l'aider dans ses recherches. À la vue de Lavarède, le père de Pénélope frissonna de plaisir. Il courut aux policiers qui le suivaient à quelques pas, leur parla à voix basse et revint à son ami. Puis tous deux se dirigèrent vers le François-Joseph. Pendant ce temps, Armand avait dénoué l'amarre qui attachait le torpilleur au quai. L'opération terminée, il se redressa et fut sur le point d'éclater de rire. Sur la passerelle accédant au pont, il voyait, marchant derrière les Anglais, l'usurier et l'ex-gouverneur de Cambo. « Descendez !» dit-il seulement au gentleman qui le questionnait du regard. « Et vous aussi, mademoiselle. » « Vous faites à merveille les honneurs de mon bateau !» remarqua Miraflore. « Parfaitement, seigneur. Vous plaît-il que je sois aussi votre cicérone ?» La proposition provoqua chez Bouvreuil une douce hilarité. « Passez donc le premier, cher monsieur Lavarède. C'est bien pour vous obéir. » Bientôt, tous furent rassemblés dans le salon. Avant de s'engager sur l'échelle, le propriétaire avait regardé sur le quai, les agents s'y trouvaient. « Mon cher monsieur Lavarède, fit-il goguenard, vous avez de moi un petit reçu de quelques milliers de francs, prix auquel vous avez estimé ma liberté. »« Oh oui, mon bon monsieur Bouvreuil. »« Hé hé, votre liberté à vous vaut plus cher que cela. »« Oh, 3 millions, tout juste. » »« Il vous sera douloureux de perdre une pareille somme. » Le ton était si ironique. Armand dressa l'oreille. « Que prétendez-vous insinuer ?» demanda-t-il. « Mais ceci seulement, la police vous attend sur le quai, quand vous allez remonter. » Le visage du journaliste s'épanouit. « Quand je vais remonter ?»« Oui, mon excellent monsieur Lavarède. » En tout cas, je descends. Merci de m'avoir prévenu. » Un claquement sec se fit entendre. Le Parisien avait tourné la manette servant à fermer le dôme qui recouvrait le trou de l'échelle. Debout auprès du tableau, il avait saisi une autre poignée. « Que faites-vous ? » hurlèrent Bouvreuil et Rosset stupéfaits. Ben, « Vous le voyez, messieurs, je descends. » En effet, un bruissement singulier, froufrou de l'eau glissant sur les flancs du bateau, arrivait jusqu'aux assistants. Les acolytes firent mine de s'élancer sur le jeune homme, mais celui-ci étendit la main sur un bouton noir placé au centre du clavier, et froidement, un mouvement et j'ouvre le goubet à la mer. « Le goubet ?» rugit l'aventurier en reculant cependant. « Oui, le goubet, c'est le vrai nom de ce bateau. » que vous allez livrer à l'Autriche, alors que l'inventeur, ruiné par ses patriotiques essais, vous l'avez confié uniquement pour que son idée triomphât dans son pays. « Oh !» murmura Aurette. « Ce gentleman est donc toujours voleur. » Une sonnerie électrique retentit et soudain, une clarté verte emplit le salon. Les panneaux s'étaient ouverts. Le torpilleur reposait au fond du port, au milieu de la gamme verdoyante des eaux. Des poissons, effarés par la présence de cette hôte inaccoutumée, fuyaient, ombre noire, dans un brouillard émeraude. La jeune fille ne chercha pas à retenir ses cris d'admiration, et ses lèvres de son père s'ouvrir sous la poussée d'un « Oh !» prolongé. « Ce bateau volé, continua Lavarède après leur avoir laissé le loisir de regarder, je vais le ramener en France, si vous n'y faites pas d'opposition. Oh, « Je pense que cela est juste, » répondit simplement Sir Merlington. Mais moi, je proteste, clama Miraflore. Profitant de l'inattention générale, le misérable avait armé son revolver. Maintenant, il le braquait sur le Parisien. Bon, fit celui-ci d'un ton railleur, je vous connais comme tireur, vous visez mal et votre main tremble. Écumant de rage, le Colombien élevait son arme prête à faire feu. Soudain, il passa comme un glissement dans l'air, et José fut enlevé, renversé à terre, et emprisonné dans un réseau de cordelettes qui le réduisit à l'immobilité la plus absolue. Les niches, communiquant avec les autres compartiments, avaient tourné et amenant dans le salon Langlois et Yann, appelés par une sonnerie du tableau. Sur un signe du nouveau capitaine, les Malouins avaient accommodé l'ancien ainsi qu'on vient de le voir. La Varenne s'approcha de Miraflore. Il se pencha sur lui et prit dans sa poche un portefeuille. « Vous me dévalisez !» hurla le vaincu. Sans répondre, le journaliste tira du Marocain une liasse de billets de banque qu'il compta méthodiquement. « 76 000 francs, produit des visites que les Italiens et les Autrichiens ont rendu à bord, car vous n'aviez pas que je sache un sous-vaillant. Il y a là 38 000 francs à vous et 38 à Coubet. » Et redevenu souriant, parlant et agissant en son nom, je défalque de sa part 10 000 francs que je joins à votre liasse afin d'annuler le marché auquel la gêne l'a contraint et dont vous avez abusé. Soit 48 000 que je renferme dans votre portefeuille et dans votre poche. » Il exécutait le mouvement en même temps. Quant aux 28 000 restants, bon, je les donne à Langlois pour qu'il puisse racheter une barque. Goubet ne trouvera pas que c'est trop pour avoir sauvé son œuvre du déshonneur. Et comme le Malouin se défendait, « Prends donc, lui dit-il. Tu peux être sûr que l'inventeur m'approuvera. Du reste, je l'indemniserai, j'espère. Avec l'aide de Gautier, nous ferons une campagne de presse sérieuse et le ministre finira bien par nous entendre. » Puis, prenant l'accent du commandement, « Yann, au fanal, Langlois, à la machine. Si nous demeurons ici, la police va nous faire envoyer des scaphandriers. » D'instinct, en homme habitué à l'obéissance passive, les matelots s'étaient élancés aux postes indiqués. Bouvreuil esquissa un mouvement vers le tableau de direction, mais Morlington l'arrêta par ces mots. « Non, vous ne sauriez pas, inutile de nous faire périr !» Et il appuya ce conseil d'une solide bourrade. Le bateau se mit en marche, glissant lentement à 2 mètres du fond. Il obliqua à droite pour prolonger le Moto Santa Teresa, contourna la plateforme de la lanterne et piqua droit vers le sud dans l'Adriatique. Par les panneaux, les passagers voyaient filer les bandes vertes de l'eau, légèrement ridées par le frottement du Goubet, à qui désormais nous laisserons cette appellation française. Au-dessous du torpilleur, la terre n'était plus visible. « À quelle profondeur sommes-nous ?» demanda Miss Aurett. Armand consulta le manomètre. « À 22 brasses. Et la brasse vaut 1,60 m. Ici, les agitations de la surface ne se transmettent plus. Vous devez remarquer qu'aucun de nous ne souffre du mal de mer. Maintenant, comme le creux moyen de l'Adriatique est de 200 mètres, je puis donner sans danger au bateau sa vitesse maxima. Qui est de... Oh, ben enfin, nous allons le savoir. » Un tour de manette et le foufou de l'eau s'accentua, devint strident. Le jeune homme avait les yeux fixés sur un cadran où une aiguille circulait rapidement. La pointe se fixa enfin. « 50 000 à l'heure, dit le jeune homme. C'est phénoménal et c'est effrayant. » Tous s'entregardèrent. Une même pensée traversa tous les cerveaux. À cette allure, un choc eût été un écrasement. Qu'un rocher se trouva sur la route, et le sous-marin, sous la formidable poussée de son hélice, éclaterait ainsi qu'une noix vide. Une grande carte de la Méditerranée, indiquant les fonds de Gibraltar à Candie, était accrochée au mur au-dessus du directeur. À l'aide du compas, le Parisien relevait la route. Le soir à 9 heures, après un dîner emprunté aux provisions du bord, on se trouvait en face d'Ancône. Chacun s'installa pour passer la nuit sur les divans qui faisaient le tour du salon. Don José, par précaution, n'avait pas été déficelé. Seul Armand resta debout à son poste. Veillant pour tous, il releva successivement Civita Nova, Benedetta, Ciulliano Nova, Pescara et Vasto. Comme la nuit, il ne craignit pas d'être aperçu. Il fit remonter le bateau et ouvrir la coupole pour renouveler l'air respirable sans avoir recours aux machines. Vers minuit, il rasa l'île Tremiti. Piesti, à l'extrémité du cap du même nom, Manfredonia au fond d'une baie pittoresque, où une algue spéciale donne aux eaux une teinte safran, Barletta, Trani, Bari, Brindisi, port d'attache des vapeurs de la Malle de l'Inde et de l'Australie, furent dépassés par le sous-marin dans sa course folle. Quand Aurette ouvrit les yeux, vers 6 heures du matin, le Goubet sortait du canal d'Otrante et se trouvait en vue de la cité, mollement couché à l'extrémité du talon de la botte italienne. Laissant à gauche l'archipel ionien, à droite le golfe de Tarente, le torpilleur se dirigea vers la Sicile. De temps à autre, la Varenne faisait plonger l'appareil. On descendait dans les vallées sous-marines, tapissées d'algues, de fucus, de coraux, de spongières. Dans le cercle lumineux du fanal, les voyageurs collés à la vitre contemplaient un spectacle étrange dont aucun paysage terrestre ne saurait donner l'idée. Par suite de la densité du milieu, les goémons, les longues barbes de la mer, montaient vers la surface en une verticale rigide. Et dans les anfractuosités de rochers, entre les végétations corallifères, des monstres insoupçonnés grouillaient, des poulpes, des araignées de mer aux yeux glauques, des homards gigantesques, surpris par l'irradiation électrique, accouraient du fond de l'ombre, se pressant, se bousculant vers le foyer lumineux, tels les papillons autour de la flamme de la bougie. Mais ici, au lieu d'insectes gracieux, une légion d'êtres horribles qui semblaient vomis par un cauchemar. Bouvreuil était éperdu. Peut-être tout cela lui rappelait-il ses mauvais rêves d'homme d'affaires véreux. Et puis il avait appris que parmi les colis embarqués se trouvait un baril de poudre, si bien que, nouvel âne de Buridan, il ne savait si sa peur du mélange d'étonnant était plus grande que sa crainte des crustacés. Une vision plus effrayante attendait les passagers. Dans une de ces descentes au fond, ils se trouvèrent en présence d'une coque de navire donnant la bande à tribord. C'était un grand vaisseau, les mâts coupés à 1 mètre du pont, le bordage déchiré sur une longueur de 3 brasses, disait la catastrophe. Ce bateau avait coulé à pic après avoir heurté un récif. Le Goubet suspendit sa marche et se rapprocha de l'épave. Un cri se fit entendre. « Là, là, sur le pont, regardez !» disait Miss Aurette en mettant la main sur ses yeux. Parmi les lianes marines nées de la pourriture du bois, parmi les concrétions pierreuses des polypes, on reconnaissait des squelettes humains. la même à demi sortie de l'écoutille d'arrière, entièrement dépouillée de chair, lavée par les eaux salines, avait conservé l'attitude de l'agonie. Dans cette zone où n'arrivait aucune agitation de la surface, le squelette restait les bras en l'air, la tête renversée en arrière, semblant continuer un suprême appel, un dernier effort pour fuir l'asphyxie. Lentement, le torpilleur fit le tour de l'épave. Sur le tableau d'arrière, à demi rongé, les voyageurs purent lire la sémillante. Et dans le silence, la voix de la varède s'éleva grave, émue. La sémillante transportait les troupes de l'armée de Crimée. Elle toucha un récit non porté sur les cartes et son bras, entraînant 350 hommes d'équipage et 975 soldats. Saluons mes amis, c'étaient des Français. Le Goubet s'éloignait à toute vitesse, comme s'il avait compris le désir de ceux qui le montaient. Longtemps, il fila ainsi, sans que personne songeât à parler. Tout à coup, l'appareil éprouva une secousse légère. Le bruit du frottement de l'eau cessa. Le bateau restait immobile dans l'immobilité verte. Presque aussitôt, Langlois parut. « La machine ne fonctionne plus !»« Ah ah !» ricana de Rosé. « Les accumulateurs sont taris. J'en attendais d'autres pour partir. Maintenant, nous ne pouvons ni monter, ni descendre. » La varette consulta sa carte. « Nous sommes presque en face de Messine, à 1 kilomètre de la côte à peine. »« Ah, alors, répondit Langlois, le bateau démontable peut servir. »«
Le bateau démontable ?»«
Oui, il est enfermé dans une caisse. C'est un canot en peau que l'on tend sur une carcasse de bois. Une fois à la surface de la mer, nous monterons l'appareil et gagnerons la côte à l'aviron. »
« Bon, répond Boudreuil affolé, mais il faut revenir là-haut. »
Armand haussa les épaules. « Et le poids de sûreté ? Goubet ne l'a pas attaché sous la quille pour rien. » Puis d'une voix sonore, « Attention, que tout le monde se tienne bien !» Et se tournant vers Aurette, devenu très pâle, « Cramponnez-vous à un meuble, miss. Ils sont fixés à la paroi. Bien !» « Vous y êtes ?» Elle fait oui de la tête. « Alors, déclenchons !» Sous la manette du capitaine, une manette grince à 2 reprises. « Adieu, Watt !» Une secousse violente se produit. Les passagers sont secoués comme la feuille par la tempête. Ils ont la sensation vertigineuse d'une chute en haut. Puis un nouveau choc qui les fait rouler pêle-mêle sur le tapis, et le torpilleur s'arrête. Bientôt, tous sont sur le pont. Armand a dit vrai. C'est un paysage merveilleux qu'ils ont sous les yeux, le spectacle unique qu'offre la vue du détroit de Messine, avec d'un côté les grands monts de la Calabre, dont les torrents desséchés sont des chemins conduisant près de Reggio, où a été fusillé le roi Murat, et de l'autre la côte sicilienne, dont l'Etna domine les hautes montagnes, pendant qu'au pied, mollement baigné de flots bleus, la ville de Messine, inondée de soleil, se montre étagée autour de son port. Sans perdre un instant, Langlois et Yann mettent à flot le démontable, dont Rosé Miraflore rit d'un mauvais rire.
Nous verrons bien si les autorités italiennes permettront à M. Lavarette de ramener mon torpilleur en France, dit-il à Bouvreuil.
Le journaliste tressaille, le Rastaquer va porter plainte. Le bateau sera confisqué jusqu'après enquête. Des plans seront dressés et l'invention française deviendra une arme pour l'Italie. Ah non, non, cela ne sera pas. Et le regard du jeune homme s'irradie d'exaltation sainte. Tous les voyageurs ont pris place dans le canot avec des provisions soigneusement emballées par le Parisien. Les avirons sont bordés. Alors Armand a un geste farouche. « À ma place, Goubet le fera », murmura-t-il. On le voit disparaître dans l'intérieur du sous-marin. 2 minutes s'écoulent. Le jeune homme revient un peu pâle. Il s'élance dans le canot et, s'adressant aux matelots, « À force de rames, les enfants !» Les Malouins ne comprennent pas, mais ils obéissent. La distance qui les sépare du bateau sous-marin augmente rapidement. 100, 200, 300 mètres sont franchis. Brusquement, une détonation effroyable déchire l'air. Une colonne de feu et de fumée s'élève au-dessus du torpilleur qui se perd dans un énorme remous. « Il y avait de la poudre à bord !» dit alors la marraine, les yeux brillants d'enthousiasme. « J'ai fait sauter le Goubet !» Et avec le sourire le plus ironique, « Seigneur Miraflore, ajoute-t-il, vous devez être satisfait. Les débris du navire resteront dans les eaux italiennes. »